Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie. Cette semaine, c'est une émission en deux parties que nous vous proposons pour revenir sur deux événements qui ont marqué la semaine. Vous entendrez notamment tout à l'heure un bilan économique de l'accord de Nouméa qui a donné lieu, vous le savez, à un séminaire organisé par le gouvernement avant-hier. Et nous avons interrogé à ce sujet l'économiste Olivier Sudry. Et puis l'autre événement dont nous allons parler tout de suite, c'est le fait que 7 start-up calédoniennes sont parties hier soir pour participer au salon Viva Technologie ou Vivatech à Paris, un salon européen qui va réunir 1800 entreprises innovantes. Le secteur du numérique et plus largement de la tech et de l'innovation ne cesse de se développer en Calédonie. Nous allons donc en parler avec nos trois invités, Atem Belagi qui est le président du Cluster Open, Stéphane Matteo qui est le directeur général de Lagoon et Damien Lanuzel qui est le gérant Setup qui est une filiale d'Office Plus. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Atem Belagi, on le disait, c'est un petit événement quand même de voir ces 7 start-up calédoniennes qui ont été retenues et sélectionnées pour partir à ce grand salon international de la tech. Hein.
Absolument, un événement, pour nous un grand événement, parce que c'est l'aboutissement d'une première étape dans la mise en place d'un écosystème innovant, que ce soit digital ou dans la tech, et qui a pour vocation, entre guillemets, non seulement de s'agglomérer pour s'entraider, hein, on est dans un sujet également de visite de ce qui se fait ailleurs, pour aller chercher et sourcer de l'information, de l'innovation, et également pour se frotter, pour voir est-ce qu'on est en capacité sur certains sujets de nous-mêmes de se placer dans ces grands marchés. Et à la fin, en fait, pour qu'on fasse du réseautage ensemble, on a aussi besoin, par exemple, de financement. C'est là-bas où on trouve tout le monde, où c'est l'occasion de voir d'une façon directe ces fonds d'investissement dont on a besoin.
C'est un milieu et une technologie qui est extrêmement évolutive et qui nécessite de se tenir au courant en permanence.
Absolument, l'innovation hein, par définition est quelque chose qui évolue, il y a des ruptures technologiques, il y a des outils qui évoluent énormément. Et là, le salon il s'ouvre sur énormément de sujets hein, qui font l'actualité d'aujourd'hui, hein, l'intelligence artificielle, tout ce qui est innovation dans le médical, dans les télécoms, dans tous les sujets. Et c'est un moment privilégié pour être au contact de ce qui se fait au mieux au monde, parce qu'on parle du plus grand événement innovation européen.
Alors, les Calédoniens sont présents de deux façons. Il y a ces 7 startups qui ont été sélectionnées à l'issue d'un processus et qui auront un stand. Et puis, on va le voir avec nos deux invités qui vont, eux, sur place pour regarder un peu ce qui se fait, observer, prendre des informations et faire du réseautage, comme on dit. Les 7 startups qui ont un stand sont partis hier soir. Et elles vont vraiment essayer à la fois de vendre leurs produits, mais aussi de nouer des contacts pour éventuellement de nouveaux financements, etc., etc.
Absolument. Bon, c'est la première partie du salon, il est B2B, donc c'est professionnel. Donc c'est là où elles vont pouvoir rencontrer, je dirais, ou des potentiels revendeurs, ou des potentiels investisseurs, ou enfin tout l'écosystème de la tech également. Je rappelle juste, hein, il y a 7 start-upers calédoniens qui ont été choisis. Il y a l'écosystème. Donc moi, je vais représenter Open. Je suis président d'honneur et pas président. Il y aura le président Open aussi, Sylfer, là-bas, qui va aussi, on va parler d'Open, et de l'écosystème digital en Nouvelle-Calédonie. Il y a également, et ça c'est un fait que je trouve très très important, et je remercie le gouvernement d'être dans cette démarche-là régionale, puisqu'ils ont choisi 2 start-up polynésiennes pour être dans notre délégation, et également quelqu'un de la French Tech de Nouvelle-Zélande, qui a un service développé en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, qui s'adresse à la métropole, mais qu'on intègre. En fait, on a une démarche régionale importante, et puis il y a un ensemble de visiteurs, je laisserai s'exprimer sur le sujet.
Alors Stéphane Matteo, justement, on va voir avec vous, directeur général de Lagoon, vous allez partir sur place, non pas comme exposant, mais comme visiteur, entre guillemets. Quel est l'intérêt pour une maison comme Lagoon d'aller dans ce genre de salon? Qu'est-ce que vous allez y chercher? Avec quoi vous pensez revenir?
Oh, c'est assez simple. Passer après à Thème, il a quasiment tout dit. Alors, je ne vais pas commencer par un absolument, mais en simple, quand on est dans le milieu technologique où on a une entreprise en technologie, c'est sûr qu'il faut rester au goût du jour, voir les tendances, les futures solutions, les juger. Donc en tant que visiteur, on y va avec bien sûr une partie de notre planning est écrit, mais beaucoup avec l'esprit libre. On va rencontrer au fil du temps, Offratel a participé l'année dernière déjà à ce salon, donc on a une expérience là-dessus, participer en tant que visiteur. On file des exposants, on a des solutions qui se proposent à nous complètement en dehors de notre scope par moment, qui nous amène réflexion sur des évolutions ou des tendances qu'on puisse introduire dans le marché numérique calédonien.
Donc vous n'allez pas forcément chercher des solutions applicables à Lagoon dans son organisation et sa structure technologique, mais aussi peut-être des idées qui, à la périphérie, peuvent faire évoluer Lagoon.
Ah, je dirais les deux, mon capitaine.
Les deux, quand même. Ouais.
Oui, on a des idées bien précises, on sait les besoins que nous avons, et actuellement, nous travaillons beaucoup avec des entreprises calédoniennes, mais on a besoin aussi de s'ouvrir sur d'autres possibilités. Et garder l'esprit libre sur toute opportunité.
Alors vous, Damien Lanuzel, vous y allez aussi en tant que visiteur. On connaît Office Plus, qui est une boîte, j'allais dire, traditionnelle, mais qui a développé une filiale qui s'appelle Setup, c'est ça ? C'est-à-dire que vous avez évolué vers ce mode un petit peu plus nouveau de start-up et d'innovation technologique ?
Alors, je vais répondre un petit peu de la même manière que mon voisin, c'est oui, mon capitaine, mais deux fois...
Ne dites pas qu'Athem a déjà tout dit, parce que...
Ajoutera absolument à la fin.
Alors, je reviens juste sur le fait qu'Office Plus, vous avez la perception aujourd'hui que c'est une entreprise traditionnelle. Depuis le changement d'actionnariat il y a quelques années, le groupe Office Plus a pris un virage résolument tourné vers l'innovation et la digitalisation des entreprises. L'objectif du groupe, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises calédoniennes dans la modernisation de leur outil de travail. Ça passe par des services assez différents. On parle notamment de cybersécurité, qui est un des thèmes qui sera abordé lors du salon. Mais ça passe aussi par la digitalisation, le développement web, le e-commerce, et c'est autant de sujets pour lesquels on va aller justement sur VivaTech. En périphérie du groupe Office Plus, on a un groupe qui s'appelle le groupe SLK Mobilité, qui lui milite pour une mobilité plus propre et durable en Nouvelle-Calédonie. Et ça fait partie aussi des sujets qu'on va aller glaner un petit peu sur le salon, puisque ça fait aussi partie des grands thèmes abordés lors du salon VivaTech, c'est l'énergie, le climat, les nouvelles formes de mobilité. Donc on y va en tant que visiteur, mais on y va aussi en tant que prospecteur finalement de nouvelles solutions. Et à titre beaucoup plus personnel et proche de nous, au niveau de Setup, Setup est l'entreprise qui porte l'application Foodbank. Et c'est encore un des thèmes qui sera abordé, c'est la food tech. Donc l'idée, c'est derrière tout ça, c'est d'aller chercher, de créer des partenariats, d'aller chercher des investisseurs, de faire du lien avec des institutions publiques, partenaires privés et publics qui peuvent nous accompagner dans la croissance des entreprises calédoniennes au sens large.
Alors je le disais en ouverture, 1800 entreprises présentes dans ce salon, on peut s'y perdre. Donc j'imagine que vous avez fait quand même un petit état des lieux. Vous allez aller l'un et l'autre sur site pour voir déjà ce qui vous intéresse, et vous vous laissez aussi une latitude pour découvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ, Stéphane Mathéos.
Oui, c'est l'erreur que j'ai faite la première fois, l'année dernière. Un bon planning bien serré, bien cadré, qui part en vrille au bout d'une heure. Donc oui, il y a une application qui a été développée par le salon, sur laquelle on a déjà des contacts, des pré-rendez-vous. Donc il y a une sélection, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde. Et là-dessus, les exposants, il y en a 2500 sur le séjour, parce qu'un stand est partagé le jour 1. C'est pas la même personne le jour 2, donc même si on refait la même allée, on peut rencontrer d'autres personnes. Donc c'est un marathon, ça sera 4 jours...
Intense.
Très intense.
Et pour vous, Damien Lanuzel ?
Alors, il y a effectivement tous ces exposants, donc on en a sélectionné, on ne peut pas tous les voir malheureusement. Il y a aussi toute la partie conférence. Il y a des conférenciers qui vont venir, qui vont intervenir sur des sujets assez vastes. On pourrait, je pense... passer le salon complet à VivaTech à écouter les conférences et les interventions sans visiter un seul stand. Donc il faut faire des choix qui sont assez stratégiques dans certains cas, mais oui, ça va être basket
et le cardio qui va monter.
Basket, Camelback, et on va passer 4 jours de salon
intense. Alors Athem Belhazy, ce qui est important, et on vient de l'entendre notamment avec Damien Lanuzel, c'est que ce monde de l'innovation, de la tech, des start-up est un monde en soi, mais aujourd'hui on voit qu'un certain nombre d'entreprises entre guillemets traditionnelles, et vous l'avez bien expliqué, s'ouvrent aussi à cette dimension. Ça devient des évolutions qui sont incontournables pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui.
Absolument. Je commence. Effectivement, comment on peut avancer, comment on peut construire un développement économique sans se poser la question sur notre productivité, hein, et c'est l'innovation qui va nous amener cette productivité, hein, vous allez en parler peut-être tout à l'heure. Et c'est un sujet central aujourd'hui. La Calédonie ne peut pas tout le temps être là sans aller chercher sourcer et sans subir un petit peu aussi tout ce qui se passe ailleurs, parce qu'elle peut aussi être actrice. Et je pense qu'on est déjà tout petit, et si chacun tout seul fait de son côté ce qu'il veut faire, on est complètement perdu. On est obligé de se regrouper, ce que fait et à juste titre le gouvernement, de partir ensemble, de partager l'expérience, d'échanger les contacts, parce qu'il y a des contacts pertinents, et partager l'expérience. Un des sujets que je cherche, moi, à titre perso, pour Optimal RH, c'est d'aller chercher comment des startups ont développé des réseaux à l'international. Et ce n'est pas aussi simple que ça. J'en ai discuté il y a quelques-uns en préparation. Voilà, il y a des étapes, il y a des ressentis selon le cas. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'avoir ici, parce qu'on est quoi, 2-3 personnes qui commencent à peine et on n'a pas encore cette expérience-là.
Alors, on a l'habitude, et c'est une réalité, de dire que le tissu économique calédonien est composé essentiellement de PME, voire de TPE. Il y a beaucoup d'artisans aussi en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver un jour à une sorte de système économique à deux vitesses, avec ceux qui seront dans le move, pardonnez-moi l'expression, de ces innovations technologiques, et ceux qui vont un petit peu rester en dehors? Est-ce que finalement c'est un monde qui est appelé à s'ouvrir et à s'appliquer à tout type d'entreprise?
Aujourd'hui, à mon sens, tout d'abord, il faut que infuser l'esprit de l'innovation quelque part partout. Il faut qu'on modernise tous les processus, quels qu'ils soient. D'ailleurs, au niveau d'Open, on est aidé par l'État à travers les tremplins du numérique, donc BPI en particulier, où on va sensibiliser l'ensemble des acteurs économiques, d'ailleurs TPE à la base et un petit peu PME, à la révolution du numérique. Je dis révolution parce qu'on est un petit peu en retard. Du coup, il faut qu'on comble cet écart le plus tôt possible. Et il y a un succès. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 actions de sensibilisation. Les gens viennent, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, ils comprennent un sujet et ça permet de démocratiser un certain nombre de sujets. Après, il ne faut pas non plus qu'on soit timide. Ça fonctionne aussi avec des locomotives. Il faut qu'il y ait des locomotives, il faut qu'on réussisse à avoir des champions dans plusieurs matières et il faut qu'on se donne les moyens. C'est eux aussi qui vont tuer les autres. Donc c'est double action, c'est l'action, je pense, de développement économique, il faut qu'elle concerne l'ensemble.
Vous partagez cette opinion, Stéphane Matteo?
Oui, je la partage. En fin de compte, il y a deux trains. Oui, il y a le marché, il y a le besoin et il y a l'innovation. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le besoin, les TPE, les PME n'ont pas conscience d'un besoin dans le numérique. Ils sont dans leur
fonctionnement business, classique,
ouais, leur fonctionnement, leur fonds de commerce classique. Et il y a toute une pédagogie à avoir sur le retard, parce que je partage tout à fait le constat d'Athème là-dessus, où nous sommes en retard sur l'aspect technologique en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, alors,
concernant ces TPE-PME.
Ou alors, il faut dédier des équipes spécifiques, comme l'a fait finalement Office Plus, Damien Lanuzel, parce que j'imagine que la création de cette filiale s'est faite avec d'autres personnes, s'est fait différemment, quoi.
Oui, tout à fait. En fait, elle répond à un besoin qu'on a identifié. Alors, je vais faire encore une fois écho à mes deux confrères du jour. Mais je pense qu'il y a une culture de l'innovation qui est encore trop masqué, trop confidentiel finalement en Nouvelle-Calédonie. Il y a des champions, il y a des startups et des entreprises qui n'ont pas du tout à rougir en termes d'innovation et de digitalisation en Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, on a des chefs d'entreprise qui, au vu d'un climat économique, politique, qui est celui qu'on a en Nouvelle-Calédonie, sont très focalisés sur leur quotidien, leur exploitation, comment payer les factures, les salariés, et arrivent peut-être un peu moins, un peu plus difficilement à se projeter sur que va m'apporter l'innovation. Donc c'est à nous, en tant qu'acteurs du numérique, aujourd'hui, d'illustrer ce que peut leur apporter la digitalisation et l'innovation dans leur quotidien pour gagner en rentabilité, améliorer leur outil de travail.
C'est là que c'est important, la proximité, justement, avec ce marché. C'est que si on leur amène l'innovation technologique telle qu'elle, c'est un gouffre. C'est un pas de géant. Alors, il y a tout un accompagnement à faire et tout un aspect où plusieurs entreprises sur le marché dédiées à prêcher la bonne parole.
Et puis, il y a peut-être une progressivité dans la mise en œuvre et dans l'adaptation à ces nouveaux outils économiques et innovants. On n'est pas obligé de changer de paradigme complètement et du jour au lendemain.
C'est effrayant.
Oui, ça peut être effrayant pour certains chefs d'entreprise.
Et même chez les artisans, il y a beaucoup d'innovations. pour pouvoir réussir ces innovations, il faut qu'ils aient déjà ce qu'on est en train de dire, ces outils-là. Il faut qu'on donne toutes les chances, quelque part, à l'innovation de se créer. Il y a beaucoup d'artisans qui bricolent et qui créent des choses sans se rendre compte, qui sont très innovantes. Et du coup, comment on accompagne tout cela ? C'est sous cette problématique-là, en étant solidaire, avec l'aide, bien sûr, publique, je le répète, ce qui est en train d'être fait, et on va ensemble et on partage ces informations. On les ramène ici, après, derrière. Hein. Enfin, on ne les garde pas pour nous. Hein. On les partage, on les ramène. Et ça, c'est super important. Quoi.
Un mot pour les 7 startups qui ont été sélectionnées et qui, elles, vont exposer pendant ce salon. C'est une ouverture à l'international, évidemment, très forte. Et c'est aussi pour elles la volonté de décrocher des marchés, de trouver des clients. Enfin, voilà, il y a un but vraiment aussi commercial et très économique, pour le coup. Hein.
Absolument. Donc, on est sur un sujet export, financement. Et recherche de partenaires pour revendre des solutions. Je pense à Vision, par exemple, à la base, c'était de l'identification des poissons dans la mer, quelque part, et elle a changé son modèle pour faire un petit outil ludique dans les aquariums, pour identifier dans les aquariums les poissons. On voit plein de poissons, on ne va pas chercher forcément les étiquettes à côté, on met en réalité virtuelle, et on a directement le poisson qui, avec sa fiche...
Ça existe pour les plantes, je crois, aussi.
Oui, voilà, mais comment l'adapter sur un contexte. Du coup, elle commence à vendre, elle va, j'imagine, chercher aussi des partenaires pour vendre, voire peut-être du financement, parce que c'est peut-être applicable sur d'autres sujets. C'est pas, il n'y a pas que les poissons, il y a peut-être d'autres sujets dans d'autres endroits. Et je pense à Testium ou d'autres sociétés qui sont là-bas, qui vont exposer leur modèle, ils vont chercher des partenaires et le sujet, je reviens dessus, parce que sans financement, on ne peut pas aller chercher des marchés. Et aussi cette recherche de financement. Je rappelle d'ailleurs, et c'est un point important, une des sociétés sélectionnées qui n'est pas à la base caïdienne et maintenant elle est pacifique, hein, c'est Invest in Pacific qui a une représentation locale, elle est dans la délégation. Du coup, elle-même, elle va accompagner, je dirais, cette aventure globale qui va chercher, j'imagine, et j'espère pour eux aussi, plus de financement pour chercher des partenariats, voir les pratiques qui se font là-bas. En tout cas, voilà, le sujet, notre problématique aussi, c'est comment amener le financement à nos entreprises, comment amener, je dirais, les finances sans passer par les voies traditionnelles qu'on connaît, qui sont l'État ou le nickel.
Voilà, et bien écoutez, on essaiera de dresser peut-être un bilan aussi de ce que ça a apporté, ce salon Vivatech, pour les 7 start-up qui exposent, et peut-être aussi pour ceux qui vont faire leur marché, pour voir s'il y a effectivement des choses à ramener de ce grand salon Vivatech qui a lieu la semaine prochaine à Paris. Merci à tous les trois.
Merci
d'être venus sur ce plateau pour nous partager cette utilité, visiblement, du développement de l'innovation et du numérique en Calédonie. Alors, je vous le disais, c'est une émission en deux parties, hein, aujourd'hui, puisqu'on va revenir maintenant sur un sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est le bilan de l'accord de Nouméa. On va en parler évidemment sous son aspect économique, puisqu'il y a eu un séminaire organisé par le gouvernement avant-hier. Et nous avons interrogé à ce sujet du bilan économique de l'accord de Nouméa l'économiste Olivier Sudry, qui a travaillé sur le sujet.
Suite au transfert de compétences, hein, l'État s'est bien évidemment fortement engagé financièrement au profit de la Nouvelle-Calédonie. Il a donc financé les transferts, notamment dans l'éducation, hein, qui est le gros morceau. Mais il a aussi accompagné financièrement l'ensemble de la Calédonie, à la fois le pays, aussi les provinces et les communes, à travers des contrats de développement. Et donc, en fait, on a eu au tout début de la période, on pourrait dire entre 98 et à peu près la crise de 2008-2009, crise financière internationale, on a eu une très très forte croissance des transferts métropolitains. Et ça a véritablement boosté l'économie. Quand on regarde ensuite très très concrètement, ça a permis aussi un rattrapage. Il y avait un sérieux retard de développement en province nord et en province des îles. Ces transferts ont favorisé le rattrapage et c'est vraiment un succès, je dirais, incontestable. Après, il y a des zones d'ombre. Alors, comment les exprimer ? C'est-à-dire, en fait, que l'économie calédonienne s'est retrouvée, en fait, très fortement dépendante, et cette dépendance persiste encore aujourd'hui, très fortement dépendante aux transferts extérieurs, notamment aux transferts métropolitains. Hein. Ils sont entre 140 et 180 milliards, suivant la façon dont on les comptabilise. C'est pas rien, hein. C'est entre 17 et 20% de notre produit intérieur brut. Donc on voit, c'est tout de suite un gros morceau financier. Dépendance aux transferts, et puis une autre dépendance qui, bien évidemment, est liée aussi à notre spécialisation, c'est sur le nickel. Alors là, les usines, au moment de la construction, ça c'est toujours la période des lumières, hein, ce que moi j'appelle les 15 glorieuses, au moins jusqu'au début des années 2010. Les 15 glorieuses calédoniennes, les constructions, ça, alors même si une grande partie des éléments, des usines ont été importées, il n'en est pas moins que ça a boosté l'économie, et notamment celle de la province nord. Et puis après, que s'est-il passé ? Comment est-on rentré progressivement dans la zone d'ombre ? Et puis là, maintenant, on est, je crois...
Dans le noir.
voilà, on est dans le noir le plus total. En fait, on s'est rendu compte, à partir de 2008, à partir de la crise financière, finalement, que les transferts de l'État n'augmentent plus. Mais pour une raison très simple, c'est pas pour pénaliser ou pour sanctionner la Nouvelle-Calédonie, pas du tout. C'est au niveau général, ça a touché l'ensemble des Outre-mer, mais aussi au niveau métropolitain. Hein, la crise financière a obligé l'État à faire des économies, à maîtriser lui-même sa dépense, et ça s'est retrouvé sur les transferts. Nous n'avons pas eu, après la construction de ces trois usines, nous n'avons pas eu finalement les dividendes du nickel. C'est-à-dire qu'on le sait tous, évidemment, ces usines ont rencontré des difficultés techniques, et au lieu de, je dirais, exporter, au lieu de créer de la richesse, elles ont engendré des pertes. Aujourd'hui, les pertes cumulées des trois usines, c'est équivaut à peu près à une année de richesse en Calédonie, une année de PIB, on est proche des 1000 milliards. Et puis, pourquoi finalement l'économie va peut-être progressivement s'arrêter? Alors, elle est plus poussée ni par les transferts qui stagnent, ni par le nickel qui n'arrive pas à décoller. Et en fait, le constat que nous avons pu faire, notamment à l'occasion du forum économique, c'est que concrètement, il n'y a pas eu de relais de croissance du secteur privé. Le secteur privé n'avait pas les épaules assez larges, finalement, pour se développer. Et concrètement, la croissance s'est étiolée progressivement et depuis à peu près 4-5 ans, elle est négative.
À cela, il faut ajouter évidemment la crise Covid qui a été un facteur qui n'était pas prévu, mais qui a aggravé forcément les choses.
Absolument. Ça, c'est vraiment... si on n'en avait vraiment pas besoin de cette affaire. Mais, je dirais, le mouvement de recul était déjà entamé bien avant la crise Covid, qui a fait plonger encore plus l'économie. Et on est dans une situation qui est assez délicate. Parce que, finalement, c'est sur cette richesse, alors qu'elle est en régression, donc ça veut dire que notre niveau de vie moyen par habitant diminue, hein, je crois qu'ils vont en avoir vraiment conscience, et je pense que la plupart des auditeurs le vivent au quotidien, baisse du revenu par habitant. Mais d'un autre côté, on a un autre souci, c'est que les dépenses, notamment à caractère social, ne cessent d'augmenter. Et là, c'est comme dans la gestion bon père de famille d'un foyer. Quand vous avez des dépenses qui ne cessent d'augmenter et vos revenus qui éventuellement diminuent, vous êtes en situation de quasi-faillite. Et c'est malheureusement le cas actuellement des comptes sociaux.
Alors, les caisses de la Calédonie sont vides aujourd'hui. Tout le monde le sait. Vous l'avez dit, le secteur privé n'a pas réussi finalement à rebondir au moment où il aurait dû le faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec une situation institutionnelle qui est encore incertaine, le secteur privé pourrait reprendre du poil de la bête et jouer un rôle un peu plus moteur, ou ça reste compliqué?
Oui, alors ça va rester compliqué parce que, en fait, ce secteur privé souffre d'un handicap qui est un handicap à la fois historique et assez cultivé aussi dans le temps. Alors, quel est le handicap majeur qui vient limiter la croissance du secteur privé? C'est un handicap de compétitivité. Nos entreprises ont des coûts de production qui sont élevés, donc des prix qui sont élevés et liés aussi à voilà, ou ce qui explique la faible compétitivité, c'est l'étroitesse de notre territoire. L'étroitesse ont fait que...
L'étroitesse démographique. Hein.
L'étroitesse démographique, effectivement, qui nous donne un marché qui est de moins de 300 000 habitants. Dans ces situations-là, et c'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, on rencontre la même chose dans les autres Outre-mer, la concurrence, en fait, ne joue pas à plein. Il n'y a pas 100 000 opérateurs qui se battent tous les matins sur les prix hein, dans chacun des secteurs. Et donc, en fait, on a tendance, dans ces cas-là, à faire les prix en fonction des coûts, bien évidemment, qui sont déjà élevés, mais aussi en fonction de la disposition à payer des clients. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, que quand j'ai un client qui est capable de payer une somme assez rondelette, il va la payer. Voilà. Mmh. Et donc, tout ceci vient majorer les prix dans un cercle souvent infernal. Hein, les prix des uns sont les prix des autres aussi, hein, puisque les entreprises sont en interrelation. Et bilan des opérations, on est très très peu compétitif. On a énormément de mal, finalement, à se développer dans ces conditions-là.
Alors, la Calédonie est économiquement malade, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Dans ces cas-là, il va falloir apporter des remèdes. On voit qu'il y a des pistes et des recherches qui se mettent en place. Dans tous les cas, selon vous, c'est des remèdes qui devront être assez forts?
Oui, parce que il est vrai, alors j'ai le rôle facile, hein, alors, on a la lecture de l'histoire, et moi, bien évidemment, je suis simplement un technicien. On aurait dû agir bien avant. Ça c'est clair, je crois qu'on en a tous conscience, mais c'est difficile de piloter aussi une économie. Aujourd'hui, effectivement, je dirais la priorité numéro un, c'est de redonner du pouvoir d'achat. De redonner du pouvoir d'achat aux agents, aux ménages les plus modestes, mais ce que l'on a vu aussi avec la crise, c'est que la crise n'a pas touché que les plus pauvres d'entre nous, elle a aussi touché les classes moyennes. Donc, priorité numéro un, c'est ça. Redonner du pouvoir d'achat pour essayer de relancer l'économie. Deuxième priorité, vous allez voir, elles sont assez congruentes, enfin, tout ceci n'est pas incohérent. Deuxième priorité, c'est le rééquilibrage financier. On ne peut pas continuer ad vitam aeternam avec des déficits du REAM qui se retrouvent sur l'hôpital, avec des dettes croisées, enfin, un pataquès sans nom, il faut mettre tout ça sur la table et se donner les moyens de financer notre protection sociale à laquelle tous les Calédoniens sont très attachés. Donc, du pouvoir d'achat et puis d'un autre côté, du financement. Alors, comment mêler tout ça? On pourrait imaginer, et c'est peut-être l'objet d'une réforme, on pourrait imaginer en fait une diminution des cotisations sociales qui pèsent actuellement sur le travail. Cette diminution, elle permettrait aussi de diminuer les coûts de production des entreprises et au lieu de les verser à la CAFAT, hein, puisqu'on va les diminuer, mais au lieu même de les verser à la CAFAT, on va les redonner aux salariés. D'accord ? Donc une partie des cotisations retourne dans la poche des salariés. C'est ça qui va alimenter leur pouvoir d'achat. Et d'un autre côté, on va dire, mais oui, mais il y a quand même un équilibre financier. Alors si on a déjà besoin de sous pour la CAFAT, hein, pour, notamment pour l'OM, mais si en plus de ça, on lui retire les cotisations pour les remettre dans la poche des salariés, ça ne va pas. Parce que mais, c'est une évidence, il va falloir trouver des ressources ailleurs. Nous avons un instrument qui est extrêmement sophistiqué pour ça, c'est la contribution calédonienne de solidarité, la CCS.
Qui a augmenté récemment.
Qui a augmenté récemment, effectivement, et qui a un rendement assez élevé, un point de CCS à peu près 6 milliards de francs. Il va falloir s'appuyer sur cet outil, mais cibler effectivement dans le paiement de cette CCS, non pas les classes populaires et les classes moyennes, mais plutôt les classes aisées qui, elles, ont un niveau de vie qui est extrêmement élevé.
Alors, vous l'avez dit, c'est compliqué de piloter une économie. Il y a quelques solutions qui ont été mises en place. Vous avez travaillé sur l'une d'entre elles, d'ailleurs, puisque vous avez fait une étude d'impact sur la réforme présentée par Mila Kulot-Tukumuli sur la réforme du RUAM. Il faut avoir un regard plus global que ça. C'est vraiment tout qu'il faut remettre à plat pour retravailler. Ou est-ce qu'on peut y arriver aussi pas à pas?
Alors, je dirais, malheureusement, il faut tout revoir. Parce que le diagnostic qu'on peut porter, nous, mais beaucoup d'autres Calédoniens le font aussi, c'est que, finalement, notre moteur économique, notre modèle économique, il est à bout de souffle. Et concrètement, il est mort. Il ne s'agit pas de changer un boulon, une valve ou une soupape. Non, il est complètement HS. Donc là, la tâche est immense parce qu'il faut, déposer l'ancien moteur, mais de toute façon, il est à l'agonie. Donc là, mais il faut en créer un nouveau. Et donc, en fait, là, jouent les relations, les interrelations qu'on appelle macroéconomiques. Hein, tout est dans tout à la fin. Donc, c'est un travail immense et c'est un petit peu comme le Rubik's Cube. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, cette espèce de casse-tête chinois où il fallait assembler les couleurs. Une fois qu'on a fait une face, toutes les autres sont déglinguées. On a vraiment l'impression. Alors, il faut y aller. Il faut effectivement s'emparer de quasiment tous les problèmes parce qu'on a beaucoup retardé aussi les réformes. Mais moi, je suggère souvent, avec pragmatisme, d'y aller mollo. Je m'explique. Certes, il faudra peut-être tout réviser, plus ou moins en profondeur, bien évidemment. Il faudra peut-être tout réviser, mais il faut y aller pas à pas. Il ne s'agit pas de provoquer ni un choc social, ni un choc fiscal, ni un choc politique, bien évidemment. Et donc, en fait, il faut procéder par étapes. Mais je prends une image qu'on comprendra assez aisément. Si on décide de s'engager dans cette voie, c'est un petit peu comme quand on rentre sur une autoroute. On ne rentre pas sur une autoroute à 200 km/h. On y va doucement, et puis on a même souvent des bandes qui nous permettent, hein, en étant avec encore un petit peu sur l'ancienne route et pour rejoindre la nouvelle. Sur cette bande d'accélération, il faut y aller, donc on va accélérer progressivement. Mais on sait bien aussi les règles du jeu sur une autoroute. Une fois qu'on s'est engagé, on ne fait pas demi-tour. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important. On peut y aller progressivement, en montée en puissance, pas tout casser en disant, voilà, non, parce que ça, on sait ce que ça peut donner, mais pas de retour en arrière.
Gardez le cap. Olivier Sudry, merci beaucoup.
Merci.
Olivier Sudry, l'économiste qui était en Calédonie pour le bilan économique de l'accord de Nouméa et qui nous livrait son regard sur ce bilan ainsi que des perspectives à tracer pour relancer l'économie en Calédonie. C'est la fin de ces jeudis de l'économie. Merci de votre fidélité.